Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien chers frères, cette histoire des sept frères qui évoque une loi est prise bien à la légère par ceux qui veulent contredire le Christ. Cette loi est une loi sérieuse, une loi puissante qui permet notamment à Jessé de naître, lui dont la mère avait été épousée par un frère. C'est une question sérieuse et nous n'allons pas l'aborder avec autant de légèreté que les contradicteurs du Seigneur. La vraie question qui se pose n'est pas celle du mariage, même si j'en dirais un petit mot incident. La vraie question qui se pose, c'est la question de la vie éternelle et de la résurrection. Et cette question est essentielle parce que c'est la question qui détermine si oui ou non nous avons la foi dans le Seigneur vivant ou si notre foi n'est qu'une petite organisation bourgeoise de notre vie ici-bas selon des normes bonnes. C'est donc une question fondamentale. Je vais traiter la question de deux manières. Tout d'abord, la mort, savoir ce que c'est et ce qu'on peut envisager ensuite, et ensuite la résurrection. Tout d'abord, la mort. La mort, c'est une réalité. Alors vous savez, on n'aime pas beaucoup à le dire parce que de nos jours, on aime à éviter la mort. Surtout, il ne faut jamais parler de la mort. Il paraît qu'on en a trop parlé, qu'on a traumatisé des générations entières. Bon, peut-être, j'y étais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on les traumatise, parce que c'est l'inconnu qui fait peur, on les traumatise en n'en parlant pas. Alors, la mort, c'est une réalité. C'est la séparation de l'âme d'avec le corps. C'est un déchirement, une fin, une terrible épreuve. J'espère que je ne vous apprends rien. La mort est la seule chose, d'un point de vue scientifique ici-bas, dont nous avons l'absolue certitude, nous allons mourir. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être catholique romain pour le savoir. Il suffit de réfléchir un tout petit peu. Et si on n'est pas des autruches, qu'on ne met pas notre tête dans un trou, nous savons qu'elle vient. Et que du premier jour de notre vie, nous avançons vers cette finalité qui est, ça c'est la finalité, c'est ce que dit le chrétien, en tout cas nous avançons vers ce jour où nous allons mourir. Voilà. Alors c'est quand même important de le savoir et d'avoir une idée claire. Je vous le dis tout de suite, la mort est le fruit du péché. La mort est un mal. Nous ne pouvons jamais aimer la mort. Nous pouvons en faire quelque chose. Ce n'est pas la même chose. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. C'est la punition de la séparation d'avec Dieu. Car le Dieu, notre Dieu, tout Dieu d'ailleurs, si, comme on peut imaginer, Dieu est le Dieu de la vie, de la création. La mort n'est pas une création de Dieu. La mort est l'absence de la vie, c'est-à-dire l'absence de Dieu. Voilà, c'est le fruit du péché, et cette mort va mourir aussi. Elle est déjà morte avec le Christ, lui qui, passé à travers la mort, l'a tué. Et nous espérons bien que nous aussi, christifiés que nous sommes, vivant en Dieu, nous passerons à travers cette épreuve pour vivre éternellement. Voilà un petit point sur la mort. Pour éviter les balivernes que l'on entend, les balivernes, peut-être, en avez-vous déjà entendu parfois, je ne veux pas être trop dur parce que du temps où je célébrais beaucoup d'enterrements, il y a 3 années, il y avait souvent parfois des gens qui venaient avec un texte. Alors vous savez, quand on a perdu quelqu'un, on est forcément bouleversé, on est triste. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher sur Internet et puis on trouve un texte qui, moi, me semble horrible, mais qu'on peut choisir avec une grande bonne foi, qu'on attribue faussement à saint Augustin, et qui commence comme ça, vous l'avez tous entendu, « La mort n'est rien. Je suis de l'autre côté. Je suis passé juste à côté de la porte, ou je ne sais pas quoi. Bon, » mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, la mort est quelque chose, la mort c'est dur, la mort ça fait peur, et la mort ça fait mal. Voilà. La mort, c'est la fin de la vie, c'est forcément pas marrant. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va se passer? Il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3. Enfin, j'en vois 3. Si vous en voyez d'autres, renseignez-moi. La première solution, sachant que nous allons tous mourir, c'est absolue certitude, eh bien c'est qu'il ne va rien se passer, c'est-à-dire que nous allons replonger dans le néant, c'est-à-dire que notre existence n'existe pas, en fait. Donc si vous allez penser ça, si vous êtes, il n'y en a pas parmi nous, c'est impossible, sinon, ou alors vous perdez votre temps ici, hein, je vous le dis tout de suite, c'est que vous êtes parfaitement matérialiste, que vous pensez que ce qui me sert à penser, là, maintenant, et ce qui vous servirait à penser n'est qu'une espèce d'épiphénomène de la matière et que, bon, tout ça va finir par finir. Voilà. Eh ben non. Hein, voilà. Première solution, le matérialisme. Au jour de ma mort, le néant. C'est ce que pensent aussi les nihilistes. Hein. Et c'est effrayant parce que si vous pensez ça, vous n'avez que, là encore, deux solutions dans la vie. Soit vous essayez de ne plus y penser. C'est ce que font nos contemporains, en vous saoulant de plein de choses, y compris d'alcool d'ailleurs. Soit vous désespérez au point de vous suicider, c'est ce que Nietzsche finit par faire. Deuxième solution, après la mort, qui n'est qu'une illusion, il y a une espèce d'évanescence. Ça c'est pour les spiritualistes, vous trouverez ça dans le Maya de l'hindou, de l'hindouisme. Si vous avez lu, pour faire une référence plus pratique, le lotus bleu, parce que dans le shintoïsme ça existe aussi, hein, si vous avez lu le lotus bleu, hein, je vais vous couper la tête, et ça ne durera qu'un instant, je vais vous ouvrir la voie. Voilà. Hein. Donc la mort, ça c'est rien du tout, c'est pas... Voilà, ça va bien se passer, et puis c'est un petit passage rigolo, et puis vous allez vous ouvrir à quelque chose de mieux. Bon. En fait, dans l'hindouisme, de réincarnation en réincarnation, enfin, un jour, on est libéré, et on n'existe plus. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre pour nous, mais c'est une autre possibilité de penser. Alors enfin, il y en a une troisième, et c'est la nôtre, c'est de penser que la vie qui nous a été donnée une fois, celle que nous avons ici, vous et moi, mes frères, elle va continuer. Elle va continuer différemment, parce que notre âme est immortelle. Parce que notre âme a été créée spirituelle comme Dieu et qu'elle ne mourra pas. Alors, c'est la question de la résurrection. C'est mon deuxième point. Puisque nous venons de parler de la mort, maintenant, avec le Seigneur, envisageons la réponse qu'il fait à ces Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. La résurrection, c'est deux choses, c'est la vie éternelle et c'est la résurrection des corps. D'abord, c'est la vie éternelle. Il n'est pas très clair que les Sadducéens n'y croient pas. Ils croient bien en une survie de l'âme. Mais ils ne croient pas en une résurrection personnelle. Or pourtant, Ézéchiel, très clairement dans cette vision déjà dans l'Ancien Testament, nous dit que les ossements desséchés vont se lever. De même, notre Seigneur sur la croix, souvenez-vous, dans ses dernières paroles, il s'adresse au bon larron et il lui dit, ce soir même, et il sait bien qu'il va mourir, hein, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais le problème, c'est que notre Seigneur ne pouvait pas citer ça. Il ne pouvait pas citer ça parce que l'histoire du bon larron n'était pas encore survenue, et ne pouvait pas dire ça aux Sadducéens parce qu'il ne lisait que le Pentateuque. Donc il ne pouvait pas citer Ézéchiel. C'est pour ça qu'il va chercher Moïse. Parce qu'ils lisent quand même l'histoire de Moïse, les Sadducéens, et qu'ils cherchent cette petite référence fine. Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Le Seigneur est le Dieu des vivants. Il n'est pas concevable que le Seigneur vive et crée des êtres pour les détruire et en garder vaguement le souvenir. C'est un peu ce que pensent les Sadducéens. Eh bien non, cette vie, elle va continuer parce que le Seigneur est la vie. Il nous l'a donné et il va continuer de nous la donner. Alors cette vie éternelle, elle conditionne tout. Elle sera même un objet de scandale, je le disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, un objet de scandale dans le monde. Pourtant, nous ne voulons faire aucun scandale et ne faire de peine à personne. Mais tout simplement parce que nous, chrétiens, nous allons nous comporter en fonction de cette vie et de la suite. Parce que vous n'avez qu'une seule vie. Vous voyez, la vie éternelle, ce n'est pas un deuxième tirage. Alors dans cette vie, je fais ce que je peux. Dans la deuxième, hein, je serai mieux. Mais non. Cette vie ici, elle est inscrite dans le temps. C'est un déroulement, un cheminement, un pèlerinage, dites-le comme vous voulez. C'est-à-dire un achèvement. C'est une chance. Une chance que n'ont pas eu les anges. Les anges ont été créés en l'espace d'un instant et ils se sont décidés, servir ou ne pas servir. Alors les anges avaient la chance d'avoir la vision de Dieu. Nous, nous l'avons sous le voile de la foi. Mais c'est toute notre vie qui nous sert à nous déterminer pour Dieu. C'est une chance, on a le temps. On a le temps, mais il va finir, le temps. Parce que le temps va arriver à un bout, et c'est ma mort, où j'aurai plus le temps. C'est le principe de l'éternité, il n'y a plus de temps. Et donc, il est illusoire de penser que c'est après que je vais me tourner vers Dieu, que je vais recommencer une nouvelle vie ou je ne sais quoi. Non. C'est fort de toute mon existence, de la pesanteur de mon âme. Et il y en a qui ne pèseront pas lourd. Oui. C'est la grâce qui pèse. Et la chance, c'est le bon Dieu qui juge. Il juge avec justice. C'est une chance aussi, ça, de savoir qu'on va être jugé avec justice. Notre âme, elle pèse ce que vaut notre vie. Et c'est cette vie-là dont nous allons vivre éternellement. Alors vous voyez, la perspective est complètement différente. Ma vie a du prix, c'est incroyable. Tout ce que je fais et ce que je ne fais pas a une incidence éternelle. Tout bien que je fais va éternellement exister en Dieu. Voilà le prix de ma vie. Voilà pourquoi nous savons que chacun de nos actes a du prix. Chacun de nos actes a une lourde conséquence. Quelle bonne nouvelle de savoir que nous bâtissons une demeure pour les cieux jour après jour. Que tout est important, que Dieu n'oubliera rien. Voilà ce qu'est la vie éternelle. Ces sept fils, dans la première lecture, en ont une conscience claire. Je ne renierai pas Dieu pour sauver cette vie-là, parce que j'en ai qu'une. Et que si je le renie ici, je vais gagner quelques années et perdre la vie éternelle. Tous les saints martyrs ont fait ce choix. Si vous allez aux missions étrangères, c'est à deux pas d'ici, vous allez voir de nombreux tableaux où il est proposé à des chrétiens de marcher sur la croix. Et ils ne marchent pas sur la croix, ils l'enjambent, courant ainsi vers leur décapitation. Ils ont choisi la vie éternelle. Choisissons nous aussi cette vie éternelle. Dernier point, alors, si nous confondons les Sadducéens, y aura-t-il une résurrection des corps? C'est déjà compliqué avec l'histoire des Sadducéens de comprendre que je ne serai pas une espèce de survivance dans un magma, voyez, je serai moi. Eh oui, Dieu m'a voulu une personne, aussi misérable soit-elle. Et c'est cette personne-là qui va vivre. Mais alors, comment cela va-t-il se faire? Le Seigneur répond simplement. Dans l'éternité, on ne prend pas homme et femme. Alors parfois, on comprend mal cette réponse. On dit, ah bon, c'est bon, alors le mariage, c'est pour maintenant, puis après, on ne se connaît plus. Ce n'est pas du tout ce que dit le Seigneur. Évidemment que dans l'éternité, je sais que la majorité d'entre vous n'êtes pas mariés, moi non plus d'ailleurs, mais ça viendra, pas pour vous. Mais on a déjà fait le choix, n'est-ce pas? Et donc, le Seigneur ne dit pas qu'on ne connaîtra plus son épouse ou son époux. Évidemment que non, ça serait complètement ridicule. Quand vous avez vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de vie commune et que vous avez été l'un pour l'autre le chemin vers le Christ, c'est ça le mariage, chrétien. Eh bien, évidemment que dans l'éternité, la première personne que vous allez reconnaître, c'est le Christ et donc votre époux et votre épouse. Ça serait comme de dire que dans l'éternité, comme on ne fait plus d'enfants, on ne verra plus ses enfants, ni ses parents. Bon débarras. C'est idiot. L'union à Dieu n'est pas l'exclusion des autres, c'est l'inverse. C'est une communion. Mais qu'est-ce à dire? Nous serons des esprits, une âme. Et cette âme, en plus, recevra son corps. Parce que nous ne sommes pas des anges, nous sommes comme des anges. Mais nous croyons à la résurrection des corps. C'est le plus incroyable. Nous avons ça à annoncer.
Le corps n'est pas une espèce d'enveloppe pesante qui nous empêche de vivre, qui serait une espèce de malheur. Eh oui, nous ne sommes pas platoniciens. Non, nous croyons au contraire que le corps nous a été donné pour qu'habite notre âme et qu'ainsi nous nous sauvions. Ainsi, en entrant en présence de Dieu, il nous sera donné à la résurrection quelque chose de notre corps. Alors ce corps, évidemment, c'est pas forcément celui-là matériellement, parce que, vous le savez bien, tout ça va tomber en pourriture. Les plus anciens parmi nous le savent déjà, c'est déjà commencé. Eh oui, il y en a qui perdent leurs cheveux, il y en a qui perdent leurs dents, il y en a qui perdent je sais pas quoi, enfin, bon, bref. Hein, tout ça va tomber en ruine. Hein, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est la preuve que c'est en train de se réaliser. Hein, on s'en réjouit pas toujours, mais enfin c'est comme ça. Hein. Mais c'est pas grave. Le Seigneur va me donner quelque chose de mon corps numérique, c'est-à-dire ça sera bien moi, ma personne. Ce corps sera subtil. Pour éviter, ça sera nouveau pour moi. Hein. Il sera impassible, il ne souffrira pas. Il sera agile, il ne sera pas pesant. Il sera clair, c'est-à-dire transparent à la présence de Dieu. Ce corps, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est quelque chose de moi. C'est pourquoi à l'église, quand on enterre quelqu'un, et ceux qui ne nous connaissent pas sont étonnés, nous, on emmène les corps morts, les cadavres, jusqu'ici, devant l'autel, là où se célèbre la vie. Et on l'encense comme on encense quelque chose qui revient à Dieu, qui va revêtir l'immortalité. Nous ne sommes pas fous. Nous savons que dans la boîte, la personne est un cadavre. Mais nous savons que quelque chose de ce cadavre va renaître, se relever d'entre les morts et vivre éternellement. Méditez souvent sur les apparitions du Christ qui a ce corps glorieux, même s'il ne brille pas de toute sa gloire, ce corps qui apparaît, qui est là, et c'est un vrai corps avec des trous et il mange, c'est le Christ ressuscité. Voilà l'extraordinaire nouvelle de cet évangile. Oui, nous allons mourir, c'est une réalité, mais oui, nous allons vivre éternellement, et ça aussi, c'est une réalité. Ainsi soit-il.